Aujourd'hui à l'émission Un temps pour parler, l'abbé Denis Veilleux s'entretient avec Emmanuel Godeau, professeur dans un lycée et à l'Institut catholique de Paris, écrivain et poète. Cette deuxième de deux entrevues a pour titre « Duel, danse, pilier promis à la joie ».
Je rencontre Emmanuel Godeau. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez publié aux éditions Salvator, mais quel visage à ta joie. Il y a un savoureux duel dans votre livre entre la mélancolie et la joie. Un vrai bonheur de vous lire. Donnez-nous un aperçu.
Ah, je vous remercie sur ce. Je vous remercie parce que c'est un chapitre qui m'a que j'ai hésité à garder parce qu'il est très désuet dans sa forme. C'est-à-dire, j'ai fait dialoguer deux instances, comme deux personnages, ou deux allégories, je ne sais pas comment il faut les nommer, je dirais plutôt des instances intérieures, joie et mélancolie en effet. Parce qu'il me semble que l'une et l'autre sont indissociables. Dans mon être en tout cas, j'aurais toutes les raisons de dire je suis mélancolique. Comme je pourrais avoir des raisons, je l'espère, après avoir écrit un tel livre en tout cas, de dire que je suis homme qui connaît ou qui peut parler de la joie. Et ce sont deux voix, je crois, qui nous constituent et qui ne sont pas si antithétiques que cela. C'est ça que j'avais envie de faire entendre dans ce dialogue-là. L'une, évidemment, mélancolie va nous ramener vers, bien justement, va me dire, tes parents, ils sont, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Hein, toi qui as de l'espérance, toi qui nous dis, mais oui, mais mélancolie, elle me dit, regarde le tombeau, tu peux aller dans le petit cimetière de Chaumont-en-Vexin, tu trouveras la tombe de ton père et de ta mère, mais eux, où sont-ils? Mélancolie me dit ça. Tout ce que tu as aimé a disparu. La grande maison, tu n'y habites plus. Elle existe encore. Ce sont des amis qui l'ont racheté d'ailleurs et qui y vivent. Mais toi, tu y vis plus. Toi, tu ne peux plus profiter de ce bonheur-là. Donc, tu es exclu de cela. Elle pourrait cultiver une certaine forme de désenchantement en moi. Et joie lui répond. Elle a besoin de mélancolie et la joie, je trouve, parce que joie lui répond. Non, tu ne vois qu'un aspect des choses. Parce que si tu dis que tout ça a disparu, d'abord, qu'est-ce que tu en sais? D'abord, tu es devant. Qu'est-ce qui fait que tu es devant ce tombeau? C'est bien que tu crois quelque chose. Sinon, pourquoi viendrais-tu là? C'est pas un rite social. Ou alors, c'est pitoyable si c'est un rite social, parce que qu'est-ce qu'on va dire au village si tu n'entretiens pas la tombe de tes parents? C'est ça la chose? Non, non. Je suis là parce que j'ai l'impression que quelque chose d'eux est là, d'une manière ou d'une autre. Et puis, ça me renvoie à des moments forts de mon existence où tout à coup, effectivement, quand ma mère est allé rejoindre mon père. J'ai perdu mon père très jeune, j'avais 9 ans, et ma mère beaucoup plus tardivement. J'étais un homme accompli, 45 ans. Et en même temps, j'ai eu une sorte de conscience tout à coup élémentaire, on pourrait dire puérile, enfantine en un certain sens. J'assume cette idée enfantine qu'ils étaient ensemble. C'est en un certain sens mélancolie pourrait dire mais c'est idiot ce que tu dis, ils ne sont nulle part, tu sais bien que ce qui est là ce sont deux squelettes maintenant qui sont peut-être même en poudre. Qu'est-ce que tu trouverais si tu ouvrais? Qu'est-ce que tu verrais? Ce serait affreux, probablement tu t'en remettrais jamais. Ce que tu verrais là, mélancolie peut dire ça, et puis joie lui répond mais ça c'est un aspect des choses. Parce que si j'ai eu cette intuition immédiate qu'ils étaient ensemble pour l'éternité, tu vas me répondre que c'est une naïveté. Mélancolie va me répondre cela. Elle peut toujours me dire cela, une illusion. Mais non, c'est pas une illusion. J'ai vraiment ressenti cela. Donc ce n'est pas de l'ordre de l'illusion. Et j'ajoute que mélancolie a quelque chose d'intéressant dans son mode de fonctionnement. C'est-à-dire que elle maintient aussi, quand on lui donne des objets, quand j'essaye de donner à mon appel de joie des objets qui ne sont pas dignes de cet appel, mélancolie est là précisément pour dire c'est pas bon. J'ai une tristesse. Je peux être très heureux de recevoir une gratification sociale, une reconnaissance, bien sûr. Mais à un moment donné, dans mon être intime, je ne suis même pas heureux de cela. Je ne suis pas forcément... une partie de mon être est satisfait. On est toujours content de recevoir une breloque, une reconnaissance, etc. Mais fondamentalement, je sais que ça n'est pas grand-chose, voire peut-être rien. Et donc, mélancolie, elle est là, avec ses petits signaux comme ça de tristesse, pour dire, assurément, là, il y a quelque chose qui n'est pas ce que ta joie attend. Ta joie, elle attend un aliment impérissable. Elle veut de l'impérissable. Elle veut quelque chose de qui puisse la nourrir complètement. Et quand tu entends tes frères protestants chanter, je suis protestant, donc quand tu les, ou mes frères catholiques, quand je les entends célébrer, chanter, bon, ça me rend heureux. J'entends des textes, des écritures, je suis immédiatement nourri. Et là, il n'y a pas de tristesse.
Alors le duel s'est transformé en danse.
Oui. Oui. Oui, c'est une forme de danse, vous avez raison, de chorégraphie, il y a une harmonie entre les deux. Et simplement, il ne faut pas que l'une prenne le dessus complètement sur l'autre. Je tiens à Mélancolie en un certain sens, c'est-à-dire que c'est aussi elle, c'est par elle que je suis fondamentalement humain, c'est-à-dire boiteux, c'est-à-dire mêlé de terre périssable, mêlé de complexité. Je ne me concevrais pas comme projeté dans la joie pure. J'y aspire. Ce sont des instants dans lesquels je me sens pleinement à la fois reconnu et reconnaissant. Et en même temps, je sais bien que mon existence terrestre est mêlée, elle est complexe, et je suis celui qui boite. Je claudique sur le chemin. Donc mélancolie est nécessaire.
L'école, la littérature, vous en avez une telle intuition. Qu'enseigne-t-elle pour vous ?
Ah. Ben vous, oui, alors c'est... Donc je suis enseignant depuis 30 ans maintenant, donc c'est mon métier. Je suis avec des jeunes. Et dans mon parcours professionnel, j'ai travaillé en lycée professionnel, en lycée technique, comme on dit en France. Je ne sais pas si la dénomination existe aussi.
Donc on se reconnaît.
On se reconnaît. Oui. Et puis maintenant, j'enseigne dans un très prestigieux lycée parisien. Et au fond, peu importe. Je trouve que le geste est fondamental est de transmettre à des jeunes gens. Pas simplement, c'est pas une question d'héritage, je ne le dirais pas dans ce sens-là, même si on peut le formuler ainsi, un patrimoine, on pourrait le dire ainsi. Mais moi, dans ma pratique d'enseignement, ce que j'essaye toujours de faire entendre à mes élèves, c'est que la littérature nous parle de nous, mais d'une manière, justement par rapport à ce que nous disions tout à l'heure, l'homme contemporain est tellement étriqué, tellement mutilé, et eux-mêmes sont confrontés dans leur jeunesse à des visions tellement parcellaires, tellement faussées de ce qu'ils sont, de ce qu'est l'existence, de ce qu'est l'amour, de ce que sont les grands et nobles sentiments de nos vies. Il me semble que la littérature, et j'ose un mot qui est un peu désuet, la grande littérature, je crois au grand texte. On ne se trompe pas quand on ouvre un texte de Dante, on ne se trompe pas quand on ouvre Guerre et Paix, on ne se trompe pas quand on lit Dostoïevski, on ne se trompe pas quand on va écouter Shakespeare, on ne se trompe pas. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour des écrivains contemporains, et ce serait paradoxal de le dire, puisque j'écris, donc je pourrais dire que, évidemment, sinon mon travail ne serait complètement obsolète. Il suffit de lire, et tout est déjà écrit, et oui, en un certain sens, tout est déjà écrit et tout est continuellement à réécrire. Et ce que j'essaye de faire entendre à des jeunes gens, et je crois qu'ils aspirent à cela, c'est ça qui me fait mal parfois. On parlait de colère tout à l'heure. Dans toute ma carrière, j'ai entendu, dès les années 1980, on me disait « Oh, mais Molière, tu sais, c'est un petit peu difficile, il faut faire... ils sont jeunes, et puis qu'est-ce que... Voilà, il y a d'autres textes, on peut faire d'autres choses quand même. Balzac, qu'est-ce qu'on en a à faire de ces auteurs-là » J'ai entendu ces sirènes-là de la démission. Je les ai entendues toute ma carrière, et toute ma carrière, j'ai dit « Non ». Je sais, même des auteurs très difficiles, même Montaigne, même des... Évidemment, je vais devoir, utiliser une expression très familière, mouiller ma chemise pour que ils entendent quelque chose du texte de Montaigne, parce qu'il est très difficile, ou de Rabelais. Bien sûr, il va falloir que je fasse un travail de passeur, de médiateur. Je dois faire cette jonction entre la langue du passé et la langue d'aujourd'hui. Mais je dois faire entendre à ces jeunes, et c'est vital, que la langue médiatique qu'on leur assène à longueur de temps est pauvre. Elle est insuffisante à dire leur dignité d'homme. Et pour dire notre dignité d'homme, nous avons besoin des poètes, nous avons besoin des écrivains de tous horizons culturels. Nous avons besoin de nous confronter au grand texte. Et je raconte dans le livre une anecdote, mais qui est au-delà de l'anecdote, d'ailleurs le terme est mal choisi. Dans un moment de mon existence qui n'était pas très très heureux, j'ai reçu la lettre d'un ancien élève, hein, qui m'a envoyé un courrier électronique. Il avait retrouvé mon adresse par justement mon site d'écrivain, donc il m'avait envoyé une lettre absolument bouleversante, en me disant... Donc quelque chose comme plus de 20 ans plus tard, je n'ai plus les dates exactes, mais ça devait bien faire, oh oui, bien 25 ou 28 ans plus tard, me dire que les mots que j'avais pu lui apprendre à travers justement la grande littérature lui avaient été essentiels dans sa propre existence. Il avait connu une période extrêmement compliquée, s'était retrouvé à la rue, ce jeune homme, et les mots des poètes, le désir lui-même d'écrire, tout cela lui a permis de surmonter ces deux années de misère, de galère, comme on dit familièrement, et il m'a envoyé une lettre absolument bouleversante, qui pour moi, on parlait tout à l'heure de gratification, vaut toutes les reconnaissances officielles, si vous voulez. Cette lettre, pour moi... C'est la suprême récompense.
Il y a une personne, hein,
une personne,
une personne qui a été touchée par l'enseignement, l'école et le professeur.
Voilà, quelque chose est passé, quelque chose oui. lui a fait dire, lui a fait espérer, lui a fait dire que quelque chose était plus précieux que l'envie de se laisser engouffrer. C'était après une déception sentimentale que ce jeune homme s'était retrouvé à la rue, et je crois qu'il avait envie de tout abandonner. Et puis, non, à un moment donné, une voix, alors qui n'est pas la mienne, qui est celle des auteurs dont nous avons parlé ensemble, quelque chose avait été transmis, et je me dis que voilà, nous sommes des semeurs. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est peut-être très modeste, parce qu'il y a des canaux de médiation beaucoup plus puissants que ce qu'un enseignant peut dire face à 30 ou 40 jeunes gens. Mais je me dis que ça vaut la peine. Ça vaut la peine de semer, même si c'est modeste. On ne sait jamais où ça va aller. Et on est très surpris de ce qui peut en découler.
Il n'a pas écrit à Montaigne. Il a écrit à Emmanuel Godot.
Il a écrit au médiateur, voilà. Oui. Même si le médiateur, lui, sait aussi que il est tourné vers plus grand que lui.
Au chapitre 11 de votre livre, nous assistons à une déferlante de joie, un plaisir à lire à haute voix. Prévert, Musset, Trenet, Est-ce une ivresse ?
Ah, c'est l'ivresse que j'évoquais tout à l'heure, de cette joie printanière. J'avais envie, dans ce chapitre, de rendre aussi hommage à cette joie, parce que on peut avoir toujours tendance à aggraver peut-être les choses, à les voir sous un jour, le jour de la profondeur. Et il y a dans la légèreté, j'aime le swing de Trenet, cette manière de nous dire que les chansons de Trenet sont d'ailleurs assez mélancoliques souvent. Il y a cette sorte de basse, un peu de tristesse, mais quelque chose est enlevé là. Musset aussi et Prévert, voilà, quelque chose qui nous dit que peut-être dans la fantaisie et le rire, hein, il y a parfois des hommages à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le côté aventureux de la vie qui ne peut pas se résumer aux formes souvent routinières et fermées que nous lui donnons. Et il me semble que il y a dans chez ces auteurs-là, chansonniers ou autres, il y a une sorte de comment dirais-je de prescience et d'intuition on ne peut pas rabattre la vie vers des contingences, des nécessités. C'est pas une série de devoirs à accomplir, il y a quelque chose de plus fondamental. Et ces poètes-là, à leur manière, sont des semeurs aussi. Il suffit d'entendre un vers de Musset et tout à coup, la vie reprend presque sa jeunesse.
Vous pouvez nous en donner un ?
Comme ça, spontanément, ce serait forcément peut-être un petit peu un Musset plus mélancolique. Les plus désespérés sont les chants les plus beaux, et j'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots. Alors si je cite ces deux vers de Musset, je cite un Musset peut-être plus mélancolique. Mais il y a le Musset de Namouna. Alors là, ma mémoire est trop capricieuse, malheureusement.
C'est bien dit. De tous ces poètes dont vous nommez le nom, vous ajoutez à la fin de cet ensemble Francis James, Paul Claudel, René Guy Cadou. Vous ajoutez Paul Verlaine. Mais vous n'écrivez pas « Je vous aime » comme aux autres. Il est peut-être le plus émouvant.
C'est le plus émouvant, Verlaine. Tellement cabossé, tellement fraternel dans sa douleur, dans sa simplicité. Simplicité qui est aussi une oreille, presque comme on dirait avoir l'oreille absolue. Verlaine a l'oreille absolue, c'est-à-dire que le moindre vers de Verlaine est... On pourrait l'importer dans nos vies. Le grand poète Yves Bonnefoy disait « Nous avons besoin de poètes qui nous donnent des mots que nous pouvons prendre dans nos vies. » Et ceux de Verlaine, il me semble, sont de cet ordre-là. Dans « Sagesse », c'est l'un des vers que je cite, Verlaine dit « Voilà, lui qui a tout perdu, lui qui a tout quitté peut-être, qui a été... maladroit, qui a été entraîné par la passion avec cet ange dangereux qui était Rimbaud. C'est le déglingué, Verlaine, si je puis dire. C'est celui qui est totalement infréquentable, si je puis dire. Et c'est de lui qu'émane une des prières les plus belles, en disant ce peu que j'ai dans ma vie, et ce peu que je suis, je te le donne, Seigneur. C'est Verlaine qui nous dit cela. Claudel a des pages très belles aussi sur Verlaine, magnifique.
La joie qui amène à la mort, sans peur, un long apprentissage.
Alors là, on est dans l'ordre de la... Je ne sais pas, peut-être de l'espérance, de la... Là aussi, ça fait partie, je m'aperçois dans mon existence, il y a beaucoup d'éléments d'évangélisation, si je puis dire, dans mon existence, qui viennent de la réalité elle-même. Et dans ma vie, à un moment donné, j'habitais près d'un grand parc à Lille, dans le nord de la France, et il y a une citadelle dans ce parc, une citadelle Vauban, comme Vauban en a fait beaucoup en France, et il y a donc un parc. Et dans ce parc, pendant plusieurs mois, je serais incapable de dire combien de temps ça a pu durer, peut-être 2-3 ans, régulièrement, comme ça, je voyais un monsieur, un homme, extrêmement bien mis. Un monsieur peut-être, je sais pas, 70, 75 ans, peut-être plus, je ne sais pas. Cheveux blancs, très digne. Et qui était là. Je ne lui ai jamais parlé. Parce qu'on n'a jamais le temps, parce qu'on est, on passe à vélo, parce qu'on emmène les enfants à l'école, parce que ceci, parce que cela. Et cet homme, il était toujours en conversation, très bien mis, beaucoup, un beau sourire, avec des femmes. Alors au début, je me suis mépris sur lui. Je me suis dit, il vient au parc, c'est la figure de ce qu'on appelait avant le vieux beau. Je me suis dit au départ, je me souviens très bien. Je me disais, oh, il m'énervait un peu d'ailleurs au départ. Je me disais, oh, il est gonflé quand même de venir comme ça, essayer de comme ça de séduire. Et puis non, je me suis aperçu au fur et à mesure, non, il éprouvait un vrai plaisir de conversation. C'est un homme qui visiblement était, comme on dirait, exquis. Un sourire, toujours à se soucier des uns, des autres, visiblement. Et puis, un jour, sur la passerelle de ce parc, j'ai vu une affiche, comme on met, vous savez, pour les chiens ou les chats égarés. Et puis, c'était le visage de cet homme. Et on mettait, sa famille avait mis, voilà, tous ceux qui ont eu plaisir à converser avec Monsieur Untel peuvent venir boire un verre, à l'occasion de sa mort.
Ah oui.
Et cet homme, à partir de là, sa figure a continué à vivre en moi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je me suis dit, mais cet homme, en fait, ce que je prenais au départ pour une forme comme ça de sourire, de contentement d'un homme qui a peut-être accompli sa vie, je ne sais pas pourquoi il était aussi souriant, mais non. En fait, oui, parce que sur l'affiche, il était marqué mort à la suite d'une longue maladie. Alors, on sait ce que veut dire le mot longue maladie, l'euphémisme. Probablement venait-il entre deux séances de chimiothérapie, probablement avait-il effectivement, voilà, quelque chose qui fait que il venait au parc, comme ça. Et cette figure-là ne m'a plus quitté, c'est-à-dire que je lui ai dédié un livre, j'ai écrit son tombeau, ça s'appelle Un prince, ça a été publié en 2010 ou 2012, j'ai un doute, pardon, 2012, chez Desclés de Brouwer, parce que ce prince, c'est lui. C'est-à-dire, je me suis aperçu, et je réponds à votre question, pardon, indirectement, mais en disant que cette plénitude qui était la sienne, c'est l'homme qui avait le sentiment que la vie était accomplie et qui voulait encore faire partager aux autres, j'allais dire sans bavardage, sans long discours, mais simplement en jetant un regard bienveillant sur le monde, il voulait dire une dernière fois merci, et ça a duré comme ça pendant 1, 2, 3 ans. Et je me dis, cet homme, que je ne connais pas, dont je ne peux absolument pas raconter la vie, je lui ai dédié un tombeau pour raconter justement cette manière dont il est pour moi un témoin de la joie. Justement. C'est-à-dire que la mort n'était pas plus forte, ce sont pas les puissances destructrices, c'est pas la maladie la maladie, je veux dire, au sens d'une, c'est pas le désespoir qu'il a emporté, c'est quelque chose de plus puissant, et il en faisait, oui, il le donnait à ceux qui passaient près de lui, même à celui qui ne lui a jamais parlé, et qui était peut-être, qui avait une dette. Et on parlait de l'écriture tout à l'heure, écrire c'est aussi parfois, tout simplement, un acte de reconnaissance.
Emmanuel Godeau, vous soulignez le trépied de la foi, de l'espérance et de la charité, des éléments du temple intérieur dont vous faites mention.
Qui sont fondamentaux, la foi, l'espérance, la charité comme étant l'élément le plus important, celui qui peut-être en un certain sens, je ne sais pas s'il englobe les autres, mais en tout cas, c'est tout, c'est si je suis dans la charité, alors tout est là, tout est là. Ce sont des éléments qui m'ont été transmis. Là aussi, j'aime cette idée. C'est une manière de le. C'est pas le témoignage d'un homme. Je ne sais pas si c'est le témoignage d'un homme de foi au sens où on peut le donner à cette expression de témoignage. Je ne sais pas. Mais par quoi sommes-nous évangélisés? Qu'est-ce qui fait que, par quelle parole? Et je m'aperçois que ma mère, qui était paroissienne, pleine de peur, pleine d'angoisse, d'angoisse de la mort lui faisait peur, ma mère, énormément. Elle a semé à sa manière. Et ces éléments-là m'ont été semés très tôt. Et il me semble que c'est comme une... L'expression ne sera peut-être pas heureuse, je ne sais pas comment le dire, mais comme une grammaire fondamentale. Comme s'il y avait là une structure essentielle que dans nos vies, si compliquées, parfois on ne voit plus les choses, nous retrouvons. Et si nous faisons ce chemin intérieur, nous retrouvons ces éléments fondamentaux. Et qui, bien sûr, sont le fruit d'une foi. Bien sûr, peuvent être transmis, renvoient à une théologie, ont une signification que l'on peut ensuite rationaliser, etc. Bien entendu. Mais là où j'essaye d'être témoin de cela, cet espace-là que j'essaye d'investir en un certain sens, c'est que nous sommes transformés par des presque rien, des mots qui nous ont été transmis comme des totems que nous apprenons à connaître et à reconnaître et qui nous permettent de savoir exactement qui nous sommes.
J'ai parlé de trépied et en vous écoutant, j'entends pilier.
Oui.
Parce que le temple intérieur...
Ce temple intérieur, oui, qui est pour moi fondamental.
Pilier.
Oui. Piliers qui sont à la fois très puissants et qui... Donc, très puissants et en même temps d'une simplicité désarmante, en un certain sens. On pourrait dire c'est tellement simple. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas toujours à la hauteur de ces piliers-là? Pourquoi est-ce que nous nous sentons vaciller si facilement? Et ce temple intérieur, oui, ça revient à la rivière. La rivière passe sous la maison et Dieu passe en toi. Enfin, il est là. Tu le cherches parfois... là où il n'est pas, où tu négliges le lieu où il est peut-être le plus près de toi.
Emmanuel Godeau, je vous propose trois joies relevées dans votre livre. Vous m'en dites quelques mots, très brefs. Le visage de votre grand frère, votre aîné de 18 ans.
Visage triste aujourd'hui, pour des raisons de vie, qui lui appartiennent, mais l'envie de dire « mais tu as été le héros de mon enfance, tu as été le grand frère, comment est-ce que je pourrais te donner ou te redonner l'envie de vivre, l'envie de connaître la joie est devant toi ». Là c'est l'impuissance peut-être, ou la difficulté, l'écrivain qui espère que les mots puissent agir.
Le visage de la personne que vous appelez « mon amour ».
C'est le visage de la... peut-être celui qui me bouleverse le plus, parce que c'est le miracle de la vie qui est là, qui recommence. C'est le visage dont je dis que je peux y trouver. C'est l'amour qui me permet de le regarder, ce visage. Et dans ce visage, c'est l'amour qui me regarde. Donc je pourrais me dire que on pourra tout pourra m'être pris dans l'existence, dans un acheminement. On parlait de mort tout à l'heure, mais j'aurais connu le grand amour.
Le visage de votre mère qui vous parle.
Le visage de ma mère, c'est un visage très paradoxal, parce que c'est le visage, en un certain sens, que je ne peux pas regarder. C'est là où c'est un visage tellement important dans mon existence que je ne sais pas si je peux le regarder.
Justement, je dis qu'il vous parle.
Et qui parle.
Qui vous parle.
Oui.
Elle est en train de parler. Regardez pas le visage, entendez la parole.
Oh ben, elle dit que, évidemment, elle avait une énergie vitale telle que elle aurait entraîné un bataillon de morvis, de moribonds en les rappelant à la joie. Parce que c'est quelqu'un qui ne cachait pas à la fois ses tristesses, ses angoisses, ses faiblesses, et puis qui, voilà, entraînait.
Emmanuel Godeau, mais quel visage à ta joie, ce fut de vous regarder. Merci.
Oh, merci à vous. Merci.
Emmanuel Godeau est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont celui intitulé « Mais quel visage à ta joie » paru aux éditions Salvator. C'était « Un temps pour parler » avec l'abbé Denis Veilleux, à la recherche d'Annie Benz.